Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Clément Muller, Bruno Salvé et Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du cyclisme avec Bastogne-Liège, de la MotoGP avec le Grand Prix d'Espagne et du rugby avec la 22e journée du Top 14 et le 6 Nations féminin. En deuxième partie d'émission, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Clément Muller, on va commencer par vous avec la MotoGP. Un Marquez peut en cacher un autre.
C'est ça, on commence à être habitué.
Alex Marquez a enfin gagné son premier Grand Prix de MotoGP ce week-end en Espagne, chez lui.
Oui, on le sent en forme depuis le début de saison. Je pense que c'était qu'une question de temps avant de le voir aux avant-postes. Là, son grand frère a fait une petite erreur en début de course qui a, on va dire, laissé le champ libre. Après, il gagne quand même avec plus de 3 secondes d'avance, donc je pense qu'il était en forme.
Il était largement au-dessus, a priori, sur ce week-end, même si est-ce qu'il ne doit pas un peu sa victoire à l'erreur de pilotage et à la chute de son grand frère Marc ?
Les rageux diront que oui. Moi, j'ai envie que sa victoire soit savourée et méritée, et je pense qu'il aurait été à la bagarre avec son frère. On voit son frère sur la fin de course avec une moto abîmée qui fait les meilleurs tours en course, il avait qu'à pas tomber.
Hein. Exactement. La chute, il l'a faite toute seule.
Donc, voilà, exactement.
Ouais. Donc voilà. Bon, la bonne surprise de ce week-end pour nous Français, c'est Quartararo deuxième.
Ouais, enfin. On a eu sur la sprint, on s'était dit ça part bien, et puis ça a duré qu'un tour, donc on avait hâte d'être au lendemain, au dimanche, pour voir ce qu'il allait donner, et ça confirme quand même la progression. La progression de la moto sur un week-end complet et pas sur un seul tour.
Oui, puisqu'il avait quand même signé la pole, donc voilà, ça lui était pas arrivé aussi depuis ces années champion du monde. Donc, est-ce que c'est de bon augure ?
Oui, c'est de bon augure. Après, forcément, un pilote qui signe la pole, on peut se dire bon. On a une moto qui a progressé sur un tour chrono. Est-ce que ça va tenir est-ce que ça va tenir sur une course? On a vu sur la sprint, on n'a pas eu que ça a pas tenu dès le premier tour, il se fait sortir, donc on avait des doutes, et on a vu qu'il était quand même un solide deuxième. Il a gardé quasiment 8 tours la première place, et puis il reste deuxième avec un solide chrono et pas d'erreur, et donc on voit qu'il y a une moto qui a progressé aussi, donc c'est de bon augure pour la suite de la saison.
Alors la question qu'on se pose, c'est le concernant, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'était vraiment une embellie passagère liée au fait que effectivement ce circuit un peu plus sinueux avec moins de lignes droites favorise entre guillemets la Yamaha par rapport notamment au Ducati?
Ah, effectivement, c'est un circuit qui déjà dans le passé avait plu à Fabio, qui a déjà gagné dessus en MotoGP. Donc c'est un circuit qui est sinueux, qui avantage quand même les Yamaha depuis de longues années. Enfin, c'est vrai que les trois dernières victoires c'est des Ducati, mais avant la période Ducati, faut pas oublier que c'était quand même assez dominé par des pilotes japonais. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai hâte de voir ce que ça donne sur un circuit plus long, avec plus de lignes droites, avec plus de vitesses de pointe, voir comment Yamaha a progressé sur les vitesses de pointe de leur moteur.
Alors, sachant qu'on en parlait en antenne, un certain nombre d'écuries ont le droit à des tests encore en cours de saison, ce qui n'est pas le cas de Ducati. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, effectivement. Donc les marques sont classées selon 4 grades, donc A, B, C, D. Et selon ces grades, ils ont plus ou moins de ce qu'on appelle de concessions. Donc Ducati étant le grade A, donc qui n'a quasiment aucune concession et qui a, on va dire, beaucoup moins de pneus test sur les périodes d'essai. Et Yamaha, Honda sont grade D, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà sur les périodes, ils ont sur une saison 60 pneus de plus que Ducati, et surtout ils ont le droit en étant grade D à avoir des tests sur le circuit, sur tous les circuits de toute la saison. Par exemple, KTM, Aprilia sont grade C, eux ils ont droit à des tests privés que sur 3 circuits. Tandis qu'Yamaha et Honda, je répète, sur tous les circuits. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent, là, à l'issue de ce GP, ils vont envoyer leur pilote test, développer des pièces, développer des moteurs et essayer de faire progresser la moto. Et ils ont le droit de le faire sur chaque GP. Donc forcément, on espère qu'avec ce système de concession, les marques recollent un peu le retard qu'ils ont sur Ducati.
L'objectif de la Fédération internationale, c'est quoi ? C'est de justement casser un petit peu la prédominance d'une marque par rapport à une autre, sans forcément cibler Ducati, mais en tout cas, puisqu'en ce moment c'est eux, mais
oui, effectivement.
D'essayer de rééquilibrer le plateau.
Effectivement, il y a 4 grades, donc ça permet les marques peuvent garder le grade ou le perdre ou progresser. En tout cas, elles ne peuvent pas aller au-delà du grade D, c'est-à-dire que ils n'auront pas plus de 270 pneus, ils n'auront pas plus de par exemple 10 moteurs, alors que Ducati en a que 7. Enfin, c'est quand même limité. Mais l'idée de tout ça, c'est quand même qu'en courte saison, on ait des motos qui progressent et qu'on ait un plateau de plus en plus homogène.
Et qu'on termine la saison avec normalement tout le monde à fond les ballons.
Voilà, c'est un peu l'idée.
Bon, on va donc suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On ne l'a pas dit, mais Pecco Bagnaia ne fait pas de bruit, mais il est là, troisième.
Oui, je pense. Bah déjà, Pecco, on va dire qu'il commence mieux sa saison que les années d'avant. Il tombe pas, il marque des points. Alors oui, il n'est pas en tête, il ne gagne pas, mais il marque de précieux points et il est quand même là, quoi. Faut pas l'oublier.
Il est troisième au championnat du monde. Alors, le premier s'appelle Alex Marquez, 140 points. Le deuxième s'appelle Marc Marquez, 139 points. Un petit point derrière. Et Bagnaia est troisième avec 120 points. Après, il y a un petit trou avec Morbidelli qui est quatrième à 84 points. Mais voilà, on a les trois pilotes qui dominent le plateau depuis le début de la saison.
Ouais, c'est assez solide. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier Bagnaia. Faut pas l'oublier, il est très fort en deuxième partie de saison. Je pense qu'il a du mal à se lancer. Et après, il faut voir sur la durée.
Sachant que voilà, pour l'instant, les frères Marquez laissent que des miettes malgré tout, hein, puisque c'est Marc Marquez qui s'était imposé sur la course sprint de samedi.
Oui, mais faut voir. La saison est longue. Enfin, il suffit d'une blessure, d'une chute, d'un résultat blanc pour que toutes les cartes soient rejouées. Donc, moi, j'ai envie de croire jusqu'au bout au retour de Pecco pour venir un peu titiller les deux frères.
Ok, donc une vraie grosse bataille de Ducati finalement, malgré ce qu'on vient de dire sur l'ensemble des
écuries. Oui, je pense que dans tous les cas, ça sera inévitable, ça va se jouer entre des Ducati, mais après, pourquoi pas avoir des pilotes qui arrivent grâce aux concessions à recoller un peu et jouer sur la fin de saison les places de 4e, 5e, 6e, quoi.
Sur ce Grand Prix, on n'en a pas parlé, mais Johann Zarco fait 11e.
Ouais.
Grand Prix un week-end un peu difficile pour
Zarco. Mitigé, ouais. Effectivement, Johan arrive à faire des bons tours chrono, il arrive à faire des bons départs, il arrive à bien se placer et après c'est la dégringolade complète.
On l'a vu hein, sur les premiers tours, il a perdu 6 places, il s'est retrouvé 6e à un moment pour se retrouver quasiment 13e 2 tours après.
Ouais, c'est difficile. On a une moto qui marche très bien sur un tour chrono, on l'a vu, hein, elle a déjà fait des étincelles sur on a un début de quelque chose, mais on n'a pas encore. Ils n'ont pas encore la potion magique pour que ça tienne au moins 12 tours déjà pour une sprint. Donc je pense que la première étape, c'est de viser une moto qui tient une sprint. Et après, on verra ce que c'est sur une race. Mais on n'en est pas encore là avec Honda, ouais, malheureusement.
Okay. Ricardo Baroni, vous vouliez intervenir sur la MotoGP ?
Oui, on approche du Grand Prix de France. Est-ce que c'est un circuit qui plaît à Fabio Quartararo et qu'on peut penser le voir sur la plus haute marche ?
C'est un circuit qui plaît à Fabio et à Joanne, forcément. après, c'est pas un circuit qui avantage des marques japonaises. Enfin, pas encore. Après, je me dis que là, Yamaha, ils ont touché quelque chose du doigt avec la moto ce week-end. Ils ont les pilotes essais qui tournent aujourd'hui et qui tournent aussi demain. Donc, ils vont confirmer des gros points sur la Yamaha. Honda, je pense qu'ils y sont pas encore, mais... Pourquoi pas arriver au Mans avec une moto
encore plus performante
ou en tout cas avec des points validés, quoi.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt dans les semaines à venir. Prochain Grand Prix, Clément.
Bonne question. Je vous avoue que j'ai pas regardé le calendrier. J'ai plus en tête.
De toute façon, on a basculé sur tous les Grands Prix en Europe. Donc là, ça va s'enchaîner.
Ça s'enchaîne chaque semaine.
Quasiment
ouais.
Tous les week-ends.
Oui, bon.
On va suivre ça dès le week-end prochain et voir si Quartararo confirme ses bonnes dispositions de ce week-end.
Yes.
On va passer au cyclisme. Ricardo Baroni, avec vous. J'ai presque envie de dire, et avec Tadej Pogacar, hein, qui, quelle que soit la course, s'impose. Il s'est imposé deux fois cette semaine. Une fois sur Liège-Bastogne-Liège hier et dans la Flèche Wallonne mercredi.
C'est ce qui est bien avec Tadej Pogacar, c'est qu'il choisit pas ses courses. Il va, même s'il n'est pas le favori, on va dire, par rapport au parcours, Parce que si on prend Paris-Roubaix, Pogacar, c'est pas du tout le physique pour un Paris-Roubaix. La Flèche Wallonne, qui était mercredi, je crois qu'on peut dire qu'il a atomisé tout le monde. Si ce n'est que la deuxième place de Vauclin a fait énormément plaisir. Hein. Il a gagné une belle étape au Tour d'Italie l'année dernière. Et là, il fait deuxième. On avait l'impression, quand il a passé la ligne d'arrivée, que c'est comme s'il avait gagné. Donc, ça a fait plaisir.
Ah bah deuxième derrière Pogacar, c'est comme si on avait gagné.
Oui, c'est vrai. Mais bon, de voir cette joie et non une déception, il aurait pu être déçu. Donc, après, l'entente sur le podium, ça faisait plaisir à voir entre Pogacar et Vauclin. D'avoir un Français aux premières places, c'est quand même très, très bien. On attendait ce jour-là de la Flèche Wallonne une réaction de Remco Evenepoel, puisqu'il fait certaines déclarations comme quoi il veut être le rival de Pogacar. C'est très bien, hein, ça nous fait du spectacle. Donc on se rend compte que Pogacar, d'abord c'est Van der Poel, son adversaire, après c'est Remco Evenepoel, donc c'est bien, on a des adversaires qui changent, mais lui il est toujours là et quand même il a bien gagné cette Liège-Bastogne-Liège.
C'est ça, avec plus d'une minute, un petit peu plus d'une minute d'avance donc sur un coureur italien Giulio Ciccone, et puis à même temps pour l'Irlandais Ben Ely. Et après voilà, on a un grand nombre de coureurs à une 10, dont Axel Laurens. Un jeune Français.
C'est ça, de l'équipe Ineos, hein, qui toute l'équipe a roulé dans le final pour essayer de le porter au moins faire la quatrième place. Il s'est bien débrouillé au sprint, c'est un excellent coureur et qui promet pour le futur. Mais en revenant sur la course, l'écart pour moi n'a pas d'importance puisqu'une fois que Pogacar est parti, ils ont essayé de revenir et après ils se sont contrôlés entre eux pour essayer d'aller faire la meilleure place. Ciccone et Ben Ely sont sortis et ont réussi à arriver entre le peloton et Pogacar. Ce qui m'a un peu déçu sur cette course, c'est que j'attendais un grand défi entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Il faut savoir que Remco Evenepoel a gagné deux fois de suite. L'année dernière, c'était Tadej Pogacar. Donc on s'est dit, on va avoir un super duel et on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la montée de la Redoute. Il était dans l'arrière, dans l'arrière du peloton, Remco Evenepoel. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il a fait rouler toute son équipe toute la journée, comme s'il était en grande forme et qu'il voulait faire un grand résultat. Il y a eu certaines déclarations faites à l'arrivée, comme quoi il était fatigué ou ce genre de choses. Moi, je ne sais pas, il vient de reprendre le vélo, donc il est peut-être fatigué parce qu'il est mal entraîné et qu'il n'a pas le fond d'entraînement que ont certains autres coureurs. Mais si on regarde un coureur comme Van der Poel, il est arrivé sur les courses et quand il est arrivé, il a performé et il est allé jusqu'à Paris-Roubaix.
Alors pour resituer un peu le cas Evenepoel, donc il fait 59e sur Liège-Bastogne-Liège, effectivement il n'est pas encore en top, mais il ne faut pas oublier qu'il a chuté lourdement en décembre dernier, que donc sa préparation, vous le disiez, a été un peu tronquée, il n'a pas pu se préparer foncièrement comme il le souhaitait.
C'est ça.
Ce qui explique aussi peut-être les résultats mitigés, notamment ce week-end.
Oui, c'est vrai, mais il a fait quand même la première course, la Flèche Brabant. Il est arrivé au sprint avec Wout van Aert. Il faut savoir que c'est deux accidentés. Wout van Aert aussi a eu un accident très grave au Tour d'Espagne. Donc là, on s'est dit, il est en forme. Première course, il gagne. Deuxième course, Amstel Gold Race, il arrive pour la gagne avec Pogacar et Skelmose. Donc on a pensé qu'il était vraiment en condition physique, surtout qu'il avait fait certaines déclarations à ce sujet, qu'il voulait essayer de faire plier, on va dire, Pogacar, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc c'est un peu, c'était un petit peu, on va dire, décevant ce duel qu'on n'a pas eu droit. Donc quand il s'est échappé, Tadej Pogacar, il a contrôlé et quand il a vu que derrière ça revenait pas, il a fini sa course. On va pas dire qu'il l'a fini tranquille, mais je veux dire, c'est quand même plus agréable quand on a un duel pour la victoire, comme par exemple Milan-San Remo, ou proche de l'arrivée, on a un duel Van der Poel et Pogacar.
Bon, alors qui peut embêter Pogacar finalement cette saison ? Qui vous donne l'impression de pouvoir embêter Pogacar ? Parce que là, c'est presque à chaque fois qu'il s'aligne sur une course, il est premier ou deuxième, ou au pire troisième, quand il n'est pas très en forme. Donc on sent qu'il est quand même très au-dessus du lot.
Il y a un nom, et je pense qu'on va le voir, c'est qu'on va changer de course. On va passer à des courses par étapes. Et sur une course par étapes comme le Tour de France, Jonas Vingegaard Il est capable de rivaliser avec Tadej Pogacar. Maintenant, au niveau des grands coureurs sur les courses par étapes, parce qu'il faut savoir que toutes les classiques sont terminées, donc la doyenne était la dernière, donc on va attaquer le Tour de Romandie, le Tour d'Italie, ce genre de course, et là, peut-être sur des courses par étapes, Vingegaard, je pense qu'il va être là, et ça va être son rival sur le Tour de France.
Bon, et donc vous venez de le dire un petit peu, on a fini la saison des classiques, on attaque un peu les tours sur une semaine ou un peu plus, le Giro, les dates du Giro.
Date du Giro, c'est au mois de mai, hein, fin mai. D'abord, c'est le Tour de Romandie, et habituellement, les gens, les coureurs, à peine ils ont fini le Tour de Romandie, ils vont au départ du Tour d'Italie. Cette année, au Tour d'Italie, il y a des excellents coureurs qui sont là, mais Pogacar, par exemple, il n'est pas là. Il y a d'autres coureurs qui seront présents. Remco Evenepoel, non plus, il n'a pas prévu d'y aller. Donc ça va nous permettre de voir une course, on va dire, plus ouverte. Et moi, j'espère un coureur de le suivre, c'est Bardet, puisqu'il va arrêter sa carrière cette année au Dauphiné. Et j'aimerais bien qu'au Tour d'Italie, il soit performant et qu'il fasse un podium, parce qu'il a souvent été là pour la gagne au Tour d'Italie. Soit il est tombé malade, soit il a eu une chute et tout. Ça serait bien pour le...
Sa carrière sur une victoire.
Voilà, comme il a fait au Tour de France, que le premier jour, il a pris le maillot jaune et que ça faisait des années qu'il courait après. Donc ça serait bien, moi ça me plairait. Et puis il y a d'autres Français qui sont très performants. On a pu voir... autour des Alpes, où deux Français arrivent pour la gagne. Hein, donc, ça fait plaisir de voir le cyclisme français arriver. Il y a une jeune génération. Moi, ce que j'ai apprécié sur cette course des Alpes, c'est qu'ils arrivent à deux et qu'il y a un jeune coureur français de 18 ans et qui dit à l'autre, à son équipier, ça fait X temps que tu es professionnel, je te laisse la victoire. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré un sprint, mais j'ai trouvé que c'était très respectueux et que ça fait plaisir à voir que ça existe encore dans le sport, parce que dans le sport, j'ai l'impression parfois que ben il y a plus de cadeaux quoi. Ça veut dire que ben même les jeunes qui arrivent dans le peloton de cyclistes, ils ont plus de respect pour les anciens qui sont présents, et les anciens s'en plaignent, mais c'est la nouvelle génération et c'est comme ça.
Bon, on va suivre en tout cas avec beaucoup d'intérêt cette phase de préparation pour les grands tours, et notamment pour le Tour de France, avec notamment le Giro dans les semaines qui arrivent. Bruno Salvé, on va enchaîner avec vous. On va passer en Ovalie. On va commencer par le top 14. Toulouse qui continue de dérouler. J'ai presque envie de dire tranquillement, avec presque une équipe B. 52-6 contre Castres, avec une équipe très remaniée.
Oui,
et surtout un Thomas Ramos à l'ouverture.
Oui, comme il a évolué en équipe de France aussi, sur ce poste d'ouvreur. Donc c'est vrai que c'est une solution de plus pour Hugo Mola d'avoir ce joueur polyvalent. Et c'était surtout le week-end des derbies, puisqu'il y avait quand même le derby Toulouse-Castres, il y avait aussi le derby Bayonne-Pau, Montpellier-Perpignan, Clermont-Lyon, Bordeaux-La Rochelle et Racing, Stade Français, donc qui s'est déroulé ce matin.
C'est ça, alors on ne va pas dévoiler tous les résultats tout de suite, on va y aller par étapes. Un petit mot d'abord pour finir sur Toulouse, qui va donc finir cette phase régulière en tête. A priori, il reste 3 journées.
Ils ont 4 journées, il reste.
Il reste, 4 journées, pardon. 10 points d'avance. Donc,
10 points d'avance sur Bordeaux, ouais, qui malheureusement a fait un faux pas à la maison ce week-end.
Défaite surprise de l'UBB à domicile contre La Rochelle.
La Rochelle qui avait absolument besoin de points pour pouvoir espérer faire partie des 6 premiers.
Se rapprocher des 6.
Voilà, et puis pouvoir jouer un barrage. Donc n'oublie pas que La Rochelle, quand même, c'est un club qui a été deux fois champion d'Europe il y a 4 ans. Voilà, donc c'est une grosse équipe qui a sorti un gros match à Bordeaux. Et Bordeaux qui prépare de la moins bonne manière sa demi-finale de Coupe d'Europe, puisque c'est dimanche prochain.
Contre
Toulouse, oui. Alors Toulouse s'est rassuré, comme vous le disiez, avec un effectif jeune, puisque Hugo Mola a préféré mettre au repos ses cadres. Mais donc on a vu des jeunes qui ont émergé. On est habitué avec le Stade toulousain qui ont un centre de formation qui est reconnu et qui à chaque fois arrive premier en tête des centres de formation. Et donc on a vu de très jeunes joueurs qui ont tenu leur place, et voilà, donc c'est le plan de succession d'un grand club qui voit en de jeunes joueurs déjà l'avenir et qui prépare la succession des joueurs actuels.
Et qui surtout leur donne l'opportunité de jouer, ce qui n'est pas forcément le cas partout, même dans d'autres sports, mais là on sent que vraiment à chaque fois il y a une volonté de faire tourner l'effectif, de laisser au repos les cadres. Alors, le calendrier chargé aide à ce genre de décision, mais on voit qu'il n'y a pas de, de peur de la part du Stade toulousain de mettre les jeunes, quel que soit le résultat, même quand ils perdent à Bordeaux, par exemple, avec une équipe jeune oui. Il y a quelques semaines. C'est pas grave, on continue, on reste sur la même philosophie.
On reste sur la même philosophie, et puis on s'aperçoit que ce soit les espoirs, parce que ce sont des joueurs qui jouent en catégorie espoir, donc moins de 21, le plan de jeu est le même dans toutes les équipes du Stade toulousain, donc ils n'ont aucun problème par rapport au niveau des repères de jeu, le plan de jeu est assimilé, donc ça leur donne vraiment l'opportunité d'évoluer avec les grands, et de se montrer. D'ailleurs, on a vu un jeune demi-mêlée là, qui a émergé et dont déjà on parle comme futur successeur de
Dupont.
De Dupont, mais voilà, c'est bien. Et puis en plus, c'est la règle qui a évolué aussi, parce que avec la règle des GIF, donc des joueurs issus de la formation française, qui a été mise en place il y a quelques années, on a l'obligation sur une feuille de match d'avoir des joueurs qui sont issus de la formation française. Auparavant, ce qui se passait, c'est que beaucoup de clubs à l'époque faisaient venir des étrangers, donc des joueurs non sélectionnables, et qui barraient en fait les jeunes joueurs. Donc les jeunes joueurs n'avaient pas de temps de jeu, on préférait faire venir un Sud-Africain ou un Néo-Zélandais qui ne gagnent pas très bien leur vie dans leur pays.
On les prêtait dans les clubs de Pro D2.
Voilà. Et donc et les jeunes, on leur laissait pas leur chance. Et puis voilà, donc cette règle, elle a permis en plus d'avoir des joueurs qui ont l'occasion de se montrer et puis surtout d'évoluer au plus haut niveau.
C'est une règle qui sert aussi à l'équipe de France, si on fait une petite aparté, puisqu'on se rappelle qu'on a été champion du monde des moins de 19 il n'y a pas si longtemps. Moins de 20, et que voilà, on voit que l'équipe de France, même si cette génération est en train de s'aguerrir, a un petit peu vieilli, fait quand même partie des plus jeunes nations au monde.
Absolument. Ça fait deux années d'affilée que les moins de 20 sont champions du monde. Donc ça veut dire que cette politique de prioriser les joueurs issus de la formation française, donc sélectionnable en plus pour l'équipe de France, elle porte ses fruits.
Allez, on reprend le fil de cette journée de top 14, de cette 22e journée de top 14. Toulon aussi, qui était troisième, qui fait un faux pas à Vannes, stade de la Rabine.
Ouais, c'est vraiment la surprise. C'est vraiment la surprise, mais je suis content pour les Bretons parce qu'ils méritent vraiment, au vu de leur saison, ils méritent vraiment d'être maintenus. Et cette victoire, en plus avec le bonus offensif, leur permet de
revenir à un point de Perpignan et du Stade Français. Donc
le suspense est total.
Voilà. La descente va se jouer entre ces trois-là puisque Pau paraît presque sorti d'affaire avec 44 points.
Oui, mais il y a encore 4 matchs.
Il y a encore 4 matchs, mais voilà, au rythme où sont les
ça va se jouer entre les trois. Voilà, Stade Français, Perpignan.
Perpignan, le Stade Français et Vannes se disputent la mauvaise place pour descendre et ensuite la place qui jouera les barrages pour le 13e.
C'est ça. Donc oui, c'est vrai que les Bretons ont vraiment créé la surprise lors de cette journée. On ne s'y attendait pas du tout. Et puis écoutez, tant mieux pour le rugby breton. Et ça donne du piment. Autant c'est énorme. C'est très serré en haut de tableau et c'est la même chose en bas. Donc ça va être une fin de top 14 passionnante.
Si on continue un petit peu sur les Vannetais, ils se sont battus tout au long de la saison. Ils ont été chercher des bonus défensifs. Ils ont été chercher parfois le point du match nul pour jamais lâcher. Ils ont vraiment fait preuve d'opiniâtreté, d'abnégation. Donc, c'est vrai que ça serait une belle histoire si c'était récompensé par un maintien.
Mais je pense que cette équipe-là, elle a, par rapport à une équipe comme le Stade Français, qui n'a pas l'habitude de se retrouver dans ces situations-là, puisque l'année dernière, à la même époque, le Stade Français jouait pour
les 6 premières places.
Les 6 premières places, et même était prêt pratiquement jouer la 2e place. Donc, et on l'a vu ce matin, entre l'opposition entre le Racing et le Stade Français. Le Stade Français a fait une très belle première mi-temps, et puis après, c'est écroulé, et puis on a pris 40 et quelques. Quoi,
voilà, presque 50, ouais, voilà. 49.
Donc, c'est pas une équipe qui est habituée à se battre pour survivre, et alors que les autres, ils ont les crocs, que ce soit Perpignan tous les ans, c'est la même chose.
Ouais, Perpignan qui a un peu l'habitude de faire l'ascenseur.
C'est ça. Et puis Vannes qui va rien lâcher jusqu'à la fin. Et
effectivement, le Stade Français, donc vous l'avez dit, c'est encore une défaite contre le Racing 92, 49-24. C'est vraiment la spirale négative. On a l'impression de dire la même chose presque toutes les semaines depuis le début de la saison.
Oui.
Malgré des changements d'entraîneur, malgré des remaniements, on voit qu'il y a rien qui change.
Ouais. On sent qu'il y a un problème, je pense que c'est mental au niveau de cette équipe. Il n'y a pas de leader ou il n'y a pas de personnes qui sont en capacité de bouger un peu les choses. Et les leaders ne sont pas là. Donc c'est une équipe qui est transparente. Et comme vous le disiez, trois entraîneurs limogés. Donc c'est compliqué aussi. Quoi. C'est compliqué dans les têtes des joueurs.
Alors, vous l'avez dit aussi, Clermont s'est imposé 39-31 contre Lyon. Match important parce que ces deux clubs-là luttent pour justement être dans les six.
Pour une place au barrage, voilà. Ouais. Et Clermont, d'ailleurs, est passé sixième suite à cette victoire.
Alors Clermont, La Rochelle et Lyon sont tous les trois à 48 points.
C'est
pour
ça.
Pour cette sixième place, sachant que Castres a 5 points d'avance à la cinquième place.
C'est ça. Donc c'est très, très, très serré. Il reste 4 matchs pour toutes ces équipes et chaque match va être vraiment crucial pour pouvoir se qualifier.
Donc, on a parlé de Vannes, donc on a parlé de la descente. Il reste 4 journées. Est-ce que dans ces 4 journées, vous voyez un club émerger est-ce que Bordeaux, déjà, est-ce que l'UBB va garder sa deuxième place ? Est-ce que ça vous paraît jouable ?
C'est une bonne question. ça a quand même été la douche froide pour l'UBB de perdre ce match ce week-end contre La Rochelle. Ils enchaînent dimanche prochain contre le grand Stade Toulousain sur une demi-finale de Coupe.
Bon, sur laquelle ils ne sont pas favoris, donc ça peut-être permettre de se libérer.
Ouais, je pense que sans être un grand pronostiqueur, je pense que le stade Toulousain devrait passer. Donc ça risque après de mettre un peu de doute au niveau des joueurs et du staff bordelais. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ça va se jouer entre les deux, entre Toulon et
effectivement, puisque après ces clubs là ont 9 et 11 points d'avance sur Bayonne qui est quatrième.
Oui, Bayonne qui tient bien ça,
qui fait pas de bruit mais qui avance, hein,
une 58 victoire, points qui est vraiment un solide quatrième et qui je pense ne bougera pas,
avec 5 points d'avance sur Castres qui est cinquième. Donc voilà, effectivement bien installé sur cette quatrième place.
Oui, bien sûr. Et alors, on va avoir surtout en avant-dernière journée de Top 14, donc la 23e journée, on va avoir un Toulon Bordeaux-Bègles, donc le 31 mai, qui va promettre énormément.
Qui va avoir très cher, effectivement.
Les deux, Toulon, on connaît la ferveur du public de Mayol, donc qui va savoir bien accueillir les Bordelais. Et donc, ça risque d'être vraiment un match très tendu.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Il faut qu'on dise un mot absolument du 6 Nations féminin, même si ça a été cruel ce week-end, la défaite des Bleus 43-42 à la dernière seconde contre les Anglaises.
Oui, mais après, sur l'ensemble du match, c'est l'entame de match de l'équipe de France qui, malheureusement, est préjudiciable parce qu'elles ont, elles ont commis énormément d'erreurs de défense, donc les Anglaises en ont profité. Il faut rappeler quand même que les Anglaises sont numéro 1 mondial. Que les Anglaises, ça fait c'est leur septième grand chelem d'affilée. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Et que leur dernier match qu'elles ont perdu, les Anglaises, elles sont leur 25e victoire d'affilée. Le dernier match qu'elles ont perdu, c'était en 2021. Et c'était la finale de la Coupe du Monde contre les Black Ferns, donc en Nouvelle-Zélande, où elles s'étaient inclinées de 4 points, donc en finale à l'Eden Park contre les Néo-Zélandaises. Donc c'est une grosse performance quand même pour l'équipe de France, parce que c'est vrai que quand on a vu l'entame de match, on s'est dit on va en prendre
beaucoup,
et puis elles vont pas revenir. Et puis il s'avère qu'il y a de jeunes joueuses qui ont émergé aussi, notamment des joueuses qui viennent du rugby à 7 et qui ont apporté énormément de dynamisme et de vitesse et qui ont pu déborder ce pack anglais qui est très très solide. Et donc une bonne performance, même si le score est cruel, on finit à un point des Anglaises.
Ça nous rappelle des mauvais souvenirs.
Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, sur l'ensemble du match, le match il n'est pas volé. Les Anglaises ont quand même dominé la plupart du match. Donc voilà, c'est une... Les Françaises auront quand même au mois d'août, puisque c'est au mois d'août, la Coupe du Monde de rugby féminin en Angleterre. Donc ça va être chez les Anglaises. Et donc voilà, les Françaises maintenant ont pu évaluer leur niveau et se dire que bon, ben, elles peuvent rivaliser contre les meilleures, d'autant plus que lors de la Coupe du Monde, elles seront pas dans une poule trop difficile. Donc je pense qu'elles pourront essayer de jouer les quarts de finale, voire les demi-finales, et essayer d'aller le plus loin possible, en sachant que les meilleures équipes mondiales dans le rugby féminin, ce sont donc numéro 1 les Anglaises, numéro 2 les Canadiennes, en 3 les All Blacks et en 4 l'équipe de France.
Bon, eh bien donc on attend beaucoup de cette Coupe du Monde et on espère que cette équipe bleue qui vient de passer pas loin de gagner.
Il y a de l'exploit, c'était l'exploit. En plus à Twickenham, avec dans un stade qui était presque plein, donc c'était vraiment une grosse pression pour ces pour ces jeunes joueuses. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes joueuses qui ont émergé. Et puis on a quand même nos deux footouniennes, les deux sœurs Féléou, qu'on connaît bien dans la région, et que donc la capitaine de l'équipe de France, donc qui a fait encore une fois de plus une prestation remarquable.
Bon, on dit qu'on apprend plus dans la défaite que dans la victoire, donc j'espère que nos Bleus vont apprendre vite et qu'elles vont vite se remettre de cette désillusion.
Elles ont jusqu'au mois d'août pour se préparer, oui.
Bon. Mais si on va passer au bref, avec beaucoup de football cette semaine, on va commencer par la Ligue 1 et les Niçois qui ont réalisé l'exploit au Parc des Princes de s'imposer face au PSG pour empêcher le PSG d'être invaincu et invincible comme l'étaient les Gunners d'Arsenal d'Arsène Wenger à l'époque. Ricardo Baroni, un commentaire là-dessus sur la défaite du PSG juste avant ce match de Ligue des Champions de cette semaine contre Arsenal.
On pourrait dire que c'est pas rassurant, mais je pars du principe que les joueurs sont plus concentrés sur la Champions League, qui est leur objectif numéro un, que sur le championnat, surtout qu'il était déjà gagné, le championnat. Bon, ils essayaient de battre le fameux
record du FC Nantes.
Tout à fait. Donc, à une journée près, ils l'ont pas battu. Mais je pense qu'il faut se donner rendez-vous mercredi pour voir jouer le PSG, parce qu'on les a vus jouer vraiment à un certain niveau et que ça donne plaisir à regarder.
Bon, on a vu effectivement que quand il a compris que ça allait être compliqué, Luis Enrique a fait des changements en sortant les cadres, puisqu'il avait aligné quand même l'équipe type en début de match. Et puis voilà, je pense que l'objectif premier après, c'était de que personne ne se blesse.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le plus important, c'est que personne ne se blesse, que l'équipe soit à 100% pour le prochain match contre Arsenal. Maintenant, Arsenal, au niveau du championnat, il est aussi pas spécialement bien. Il n'a pas fait d'excellents résultats pour aller défier avec le PSG. Donc tous les deux sont, je pense, dans une phase où ils préfèrent jouer en dedans et éviter que des joueurs se blessent. Mais moi, je suis impatient de voir ce match contre Arsenal.
Alors, on va en parler un tout petit peu après. On va continuer sur la Ligue 1. Lyon et Strasbourg qui se sont imposés aussi. Mais Monaco, qui a encore fait la mauvaise opération.
Et Marseille qui a gagné.
Et Marseille a gagné. Donc, Marseille a retrouvé sa deuxième place. Ça bouge beaucoup en haut du classement. À chaque journée, là, on a un chassé-croisé entre Lyon, Strasbourg, Monaco, Marseille. Lille qui est quatrième aujourd'hui. Qui donc est sur le strapantin pour la Ligue des Champions. Mais il reste aussi 3-4 journées et très très peu de points séparent ces équipes entre, je crois, Monaco qui est 3e et Strasbourg qui doit être 7e. Je crois qu'il y a 3 points ou 4 points, donc on sent que ça peut encore basculer dans tous les sens. Mais là, Monaco, ça fait deux fois deux matchs nuls qui font vraiment la mauvaise opération à chaque fois. Ça serait catastrophique pour eux de ne pas se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine, Bruno Salvé.
Oui, ce serait dommage parce que la saison a été quand même bonne hein, avec, pour ce club. Et on se retrouve un peu dans la même configuration que le top 14, en fait. À part, bon, on pourrait comparer le PSG au Stade Toulousain qui, eux, sont déjà... Bon, le PSG est déjà sacré. Mais voilà, derrière, ça se resserre et ça va être passionnant jusqu'à la fin.
On va parler on va parler du bas du classement parce qu'il y a quand même une information officielle, c'est que Montpellier est officiellement relégué. Le match nul de samedi matin entre Le Havre et Montpellier a officiellement scellé le sort des Montpelliérains qui joueront donc en Ligue 2 l'année prochaine. C'est quand même la fin d'une ère, j'ai envie de dire, à Montpellier de tout ce qu'avait construit Louis Nicolin.
Le pauvre Loulou Nicolin. Heureusement qu'il n'est plus là, parce que je pense qu'il n'aurait pas supporté de voir son club descendre.
Ah, on l'aurait sûrement entendu tout au long de la saison,
c'est ça.
Tancer son équipe.
Ouais, c'est, malheureusement, c'est la loi du sport. Il y a des saisons où ça se passe moins bien. Et bon, je pense que Montpellier est un grand club et on espère pour eux qu'ils remonteront assez rapidement. Ouais.
On va parler maintenant de la Coupe d'Espagne, tout en restant dans le football. Il y avait un classico ce week-end en Coupe d'Espagne entre le Barça donc, et le Real. Et c'est le Barça qui s'est imposé au terme d'un match assez brouillon, très musclé, on va dire. 3-2, avec trois buteurs français. Voilà, un commentaire, messieurs, sur ce résultat.
Moi, je me rends compte que Barcelone, c'est la seule équipe qui reste possible de faire la triplette, c'est-à-dire le championnat, la coupe et la Champions League.
Le PSG aussi, l'Inter aussi encore.
Oui, non, l'Inter, non, ils ont perdu.
Ils ont perdu la coupe.
Voilà, ils ont perdu la coupe. Ils n'ont pas perdu la coupe, ils se sont fait éliminer en demi-finale. C'est vrai qu'il reste aussi le PSG avec Barcelone. Mais je trouve que c'est du beau football à regarder jouer le Barcelone. Et c'était la dernière chance pour le Real Madrid pour essayer de s'en sortir.
Accrocher un trophée cette saison.
C'est vrai. Moi, je pense à l'entraîneur Ancelotti qui peut pas faire exactement les tactiques qu'il souhaite parce qu'il y a des joueurs haut de gamme et qu'il faut qu'absolument ils jouent. Donc, je pense qu'Ancelotti, il en a plus pour très longtemps au Real Madrid. Il a déjà été limogé une fois, il est revenu. Maintenant, je pense que ça va être compliqué pour lui. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a gagné la Champions League. Mais le Real Madrid, c'est quand même un club qui a la mémoire courte.
Oui, ce qui est un peu une généralité dans le football, j'ai envie de dire. Si on regarde d'un point de vue français, il y a 3 buteurs français dans ce match. Mbappé, donc, qui met son premier coup franc officiel en match officiel.
Un très très beau but. Hein.
Qui remet le Real dedans, il égalise.
Tout à fait. Et puis après, il y a le but pendant les prolongations.
De Tchouaméni d'abord qui donne l'avantage au Real.
Voilà.
Et puis donc Jules Koundé.
Qui marque le dernier but, qui permet à quelques minutes de la fin des prolongations, qui marque et permet au Barcelone de s'en sortir et de gagner cette Coupe du Roi.
Exactement. On va parler de Liverpool aussi, messieurs, qui est officiellement champion d'Angleterre pour la 20e fois. C'est pareil, ils ont fait la course en tête presque toute l'année. Et ça y est, c'est officiel depuis ce week-end.
Et pas une petite victoire en plus, 5-1.
Oui, c'est ça. Ils ont mis la manière pour aller chercher le titre, 5-1, effectivement. Premier titre d'Arne Slot, on s'était dit ça va être compliqué après à Jürgen Klopp de reprendre ce club.
Ouais.
Il n'a pas fait de bruit, il y en a même un paquet dans le monde du football qui ne connaissait pas son nom. Et puis là, je crois qu'il vient de se faire un nom en une saison à Liverpool, même s'il y a eu la défaite en Ligue des Champions. Mais ils ont gagné le titre en Première Ligue. Félicitations quand même, parce que c'était pas facile.
C'était pas joué d'avance. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est l'humilité de ce monsieur, puisqu'à la fin du match, il a scandé le nom de l'ancien entraîneur.
De Jürgen Klopp, absolument.
Voilà, et il lui a rendu hommage, et tout le stade lui a rendu hommage. Donc je trouvais ce moment assez fort.
Allez, un petit mot de Ligue des... Ah, oui, Ricardo.
Oui, ce qui m'a surpris sur cette victoire de Liverpool, c'est qu'ils tenaient absolument à cette victoire, les supporters, parce que la dernière fois qu'ils avaient été champions, c'était pendant la période du Covid, et qu'ils avaient fêté ça chez eux, au lieu de fêter avec leurs joueurs.
Et Dieu sait si les supporters de la Mersey sont chauds bouillants.
La nuit a dû être longue à Liverpool.
Et la bière a dû couler à flot. On va parler de Ligue des Champions, absolument. Donc c'est cette semaine, les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Arsenal-PSG, on en a déjà un petit peu parlé. Ricardo, un petit mot là-dessus ? Un petit mot supplémentaire ? Bruno, Salvé ?
Ouais, moi j'espère que le PSG va passer. Ce serait une bonne...
Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match aller à Arsenal ?
Au moins limiter la casse, un but d'avance ou un nul, ce serait bien. Quoi. Mais,
Attacher les chaussures de Declan Rice dans le mauvais sens, pas qu'il mette des coups francs.
Peut-être.
Il y a quelque temps, j'aurais été très rassuré que joue le PSG contre Arsenal. Mais le dernier match retour du PSG, j'ai trouvé que c'était chaud bouillant pour qu'ils passent. Je trouve qu'ils ont des hauts et des bas. Peut-être que la qualification est en grosse difficulté, n'est-ce pas, Olivier ?
On va suivre en tous les cas, mais effectivement, il faut revenir d'Arsenal avec le moins de galères possible, puisque le match retour est au Parc des Princes. Donc ça, normalement, c'est un avantage, mais Arsenal a prouvé que se déplacer à Madrid,
mais je pense que je pense que se qualifier en grosse difficulté, avec grosse difficulté de passer le tour, ça soit un point positif pour le PSG, puisque contre Arsenal, je pense qu'ils seront vraiment prêts pour ce match aller.
Un petit mot sur le Barcelone-Inter, qui est l'autre demi-finale, Bruno.
Barcelone qui sort d'une victoire contre le Real, donc je pense que c'était une bonne préparation aussi pour eux. C'est toujours
l'inconvénient, c'est qu'ils ont joué une prolongation supplémentaire, donc ça se serait passé. Ouais.
Donc la gestion de l'effectif, c'est la même problématique dans tous les sports collectifs notamment, et quand on joue sur plusieurs tableaux, c'est difficile. Mais bon, je pense que le Barça est sur une bonne dynamique. Oui.
L'Inter paye pas de mine, mais ils viennent de céder la tête du Scudetto à Naples.
Voilà, ils viennent viennent de perdre deux matchs de suite. Un, la qualification contre l'AC Milan pour aller en finale de la Coupe. Et là, perdre contre je ne sais plus quelle équipe, mais c'est ils ont perdu et Naples a gagné. Donc Naples a pris de l'avance sur l'Inter. Donc c'est pas spécialement bien au niveau de la condition physique et psychologique avant d'aller jouer contre le Barcelone.
Mais on sait que l'Inter, avec notamment Lautaro Martinez, a quand même un mental d'acier. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus les enterrer trop vite. On va suivre ça dès cette semaine, mercredi matin pour le match du PSG-Arsenal, jeudi matin pour le Barça, Barça-Inter. Un dernier mot, messieurs, on va parler de tennis de table, on n'en parle pas souvent, et la victoire de Félix Lebrun au WTT Contender de Tunis. Et donc les deux frères Lebrun qui sont aujourd'hui dans les 10 premiers mondiaux, 5 et 9, c'est quand même assez impressionnant ça.
Oui, contre des Allemands, je crois. Ils ont battu en demi, en quart des Allemands pour aller gagner ce tournoi. C'est vrai que c'est bien. On parlait tout à l'heure des frères Marquez, hors antenne. Là, on a les frères Lebrun. C'est vrai que ça a attiré beaucoup de passionnés ou non passionnés au tennis de table.
Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en tennis de table, donc on ne va pas bouder notre plaisir. C'est extrêmement spectaculaire. On aimerait en voir plus souvent à la télé, d'ailleurs.
Oui, puis ils sont sur la dynamique des JO. Jeux, donc c'est vraiment... voilà, c'est de bon aloi pour ces deux jeunes garçons, hein, parce qu'ils sont très jeunes, en plus.
Messieurs, on va terminer cette émission par vos coups de cœur. Clément Muller, on va commencer par vous.
Un coup de cœur à l'équipe de France de judo, après ces championnats d'Europe, qui ils ont un peu survolé la compétition avec 10 médailles. Et plus spécifiquement à la jeune Shirin Boukli qui fait médaille d'or en moins de 48 kilos et qui gagne donc tous ses combats de manière spectaculaire.
Et on va rajouter Roman Dico qui fait Roman aussi 4e fois championne d'Europe aussi, ouais. Également.
Ouais, Clarisse, enfin ils sont tous personne n'a démérité, on va dire, dans cette équipe. Je cherche mes mots.
Bruno Salvé, on va continuer avec votre coup de cœur.
Alors mon coup de cœur, il est pour un ami proche qui a quitté le territoire jeudi, donc Jérôme Crapati, qui venait d'ailleurs parler régulièrement de rugby et qui nous a partagé ses analyses toujours très pertinentes, et donc qui après 27 ans de présence en Nouvelle-Calédonie a décidé de changer d'air et de tenter un nouveau challenge. Donc merci Jérôme pour toutes ces années, et puis on te souhaite le meilleur. Je sais qu'il écoutera cette émission.
Donc, exactement, je l'ai eu au téléphone juste ce week-end, et donc on remercie Jérôme pour ses multiples interventions sur l'émission, et effectivement on lui souhaite une bonne continuation.
Voilà, salut Jérôme.
Ricardo Baroni.
Mon coup de cœur, c'est pour le cyclisme féminin. On a en Nouvelle-Calédonie une jeune fille qui s'appelle Louise Chavitz, la fille de David Chavitz, qui a été maillot jaune du Tour 2018, qui va être dans la sélection de l'équipe de France et qui vise les JO de 2032 à Brisbane.
Bon, eh bien voilà. Et merci pour vos coups de cœur, messieurs. On va terminer cette émission un petit peu en retard. Et on s'excuse auprès de Lionel Sabot pour son journal. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.